Bernard Stiegler, directeur de l'IRCAM, s'entretient avec Elie Düring. La conscience à l'ère des objets temporels.
Bernard Stiegler, la dernière fois, on a fait un parcours un peu vertigineux qui nous a mené du mythe d'Épiméthée, tel qu'il est rapporté par Protagoras et par Platon, jusqu'au Néandertal, en passant par l'Australopithèque. Et en fait, ce qui se dessine dans ce que vous racontiez, c'est la naissance d'une mnémotechnique, ou l'organisation, disons, l'anthropogénèse, la fabrique de l'homme à travers des techniques de mémoire.
Alors, il faut bien distinguer la technique comme milieu de mémoire, que j'ai appelé épiphylogénétique. Épiphylogénétique parce qu'il est à la fois épigénétique puisqu'il est produit par l'expérience individuelle et il est phylogénétique parce qu'il est transmissible de génération en génération. C'est ce que les animaux ne peuvent pas faire. Un animal ne peut pas transmettre son expérience à sa descendance. Alors que l'homme est constitué culturellement, on oppose très souvent la technique à la culture. En réalité, la technique est la condition de la culture en tant qu'elle permet la transmission. Cela étant, toute technique n'est pas faite pour garder la mémoire. Un silex taillé n'est pas fait pour garder la mémoire. Un silex taillé, il est fait pour découper de la viande, pour travailler de la matière, etc., etc. Il se trouve que, par ailleurs et spontanément, il est aussi un vecteur de transmission de mémoire. C'est pour ça que les archéologues peuvent, à travers les silex taillés, ou à travers de la poterie, ou à travers des objets manufacturés, reconstituer une civilisation. Parce que les gestes sont conservés en creux dans les objets. En revanche, en gros, à partir, disons, de Cro-Magnon, même si en fait on sait que ça existe déjà avant, mais on n'en a pas de traces attestables, donc à partir de Cro-Magnon, c'est-à-dire de Lascaux, apparaissent des pratiques véritablement qu'on peut appeler de mnémotechniques, où les groupements humains se mettent à développer des comportements faits pour transmettre la mémoire. Et c'est comme ça que on va voir se développer ce qui explosera littéralement après le néolithique, c'est-à-dire il y a un peu plus de 10 000 ans. Le néolithique, c'est la sédentarisation. Cette sédentarisation, elle va conduire à la civilisation urbaine, et elle se produit principalement du côté de l'Irak, du côté de ce qui deviendra ensuite l'Empire mésopotamien. C'est le passage du chasseur-cueilleur à l'éleveur, cultivateur. Cet éleveur-cultivateur, qu'est-ce qu'il va produire? Il va produire ce que Marx appellera une accumulation primitive de capital. Il va produire du stock. Et ce stock, il va falloir le comptabiliser. Donc, on va voir apparaître d'abord des techniques de mnémotechniques qui sont liées à des pratiques mythologiques et magiques, d'ailleurs, comme on suppose que les fresques, par exemple, de Lascaux appartiennent à des pratiques cultuelles, enfin religieuses, si on peut appeler ça religieux, parce que le mot religio vient des latins et on a tendance à appliquer la religion à tout ce qui est comportement de croyance liée à la mythologie ou à la magie. Or, la religion, c'est bien particulier. Enfin bon, le cultivateur-éleveur va accumuler un stock, et ce stock, il va falloir le quantifier. Cette quantification va conduire à la production de systèmes de numération, qui vont d'ailleurs aussi servir. Tout ça se fait dans une espèce d'inconscience, par ailleurs. Je ne dis pas que les gens qui ont développé ces systèmes les ont développés consciemment pour ces finalités-là. Mais ça va permettre, ces systèmes de numération, également d'élaborer un calendrier, donc de constituer une capacité d'anticipation de la venue des saisons, donc par exemple d'anticiper les crues du Tigre, de l'Euphrate ou du Nil. Et à partir de là, ça va permettre à une grande époque de ce qu'on appelle les grands empires de se mettre en place, ces grands empires qui vont se constituer par la combinaison de la richesse alluvionnaire des grands fleuves autour desquels ils vivent et de la technique de la notation écrite qui va leur permettre d'anticiper ces crues, donc d'en exploiter les vertus, le potentiel. À partir de là, vont s'améliorer progressivement les systèmes de notation et ils vont conduire chez les Grecs à l'apparition de l'écriture alphabétique, qui est une écriture que nous utilisons toujours. Nous l'appelons alphabet, ce qui vient de alpha, bêta, gamma, etc. Donc, des lettres grecques. Et c'est ça qui va constituer la cité grecque à proprement parler. Parce que la cité grecque, qu'est-ce que c'est? C'est une communauté de vie qui vit collectivement en ayant une connaissance critique de ses règles de vie. En l'occurrence, ces règles de vie, on les appelle à partir de là le droit. Pourquoi est-ce que cette communauté a une connaissance critique de ses règles de vie? C'est parce qu'elle les a extériorisées sous une forme objectivable à travers l'alphabet. Qu'est-ce qu'apporte l'alphabet par rapport aux autres formes d'écriture qui sont beaucoup plus anciennes? Eh bien, il apporte la possibilité de réaccéder de manière littérale, c'est-à-dire quasi exacte, à un passé de la pensée. Si vous prenez, par exemple, le Ménon et que vous le lisez dans le grec de l'époque de Platon, ce qui est tout à fait possible, vous le trouvez aux belles lettres chez Guillaume Budé dans le texte original. Alors, on pourra m'observer qu'il y a eu des interpolations, qu'il est passé par les Arabes, etc. D'accord. Mais en gros, on considère que ce sont les manuscrits authentiques qui ont été authentifiés de Platon. Vous accédez à travers ces textes à la pensée pure de Platon. Quoi que dise Platon de l'Hypomnèse, par ailleurs. C'est-à-dire que quand vous lisez les phrases de Platon dans le Ménon, vous n'avez pas l'impression d'avoir une image approximative de ce que pensait Platon. Vous êtes en relation immédiate et directe avec la pensée de Platon. Ça n'est pas la même chose si vous avez affaire à des énoncés cunéiformes. Quand vous avez affaire à des énoncés cunéiformes des Mésopotamiens, vous avez une certaine incertitude, une relative incertitude sur la signification de ces énoncés. Vous n'avez aucun doute sur la signification des énoncés écrits de Platon. Ce que vous perdez, par contre, c'est le ton, la prosodie, etc., etc. Alors, ça, c'est très important, c'est l'apparition de la première technique mnémotechnique que j'appelle orthothétique. C'est un néologisme et un barbarisme que j'ai construit sur le grec, de orthos et de thésis. Orthos qui veut dire exactement, et thésis qui veut dire poser, position. Ce sont des énoncés qui posent exactement le passé et qui permettent donc une intensification de l'accumulativité dont je parlais tout à l'heure à propos de la technique en général et qui va permettre tout à coup par exemple de continuer le dialogue avec Platon, ce que je suis en train de faire en ce moment en vous parlant de Platon, je continue à dialoguer avec Platon. Qu'est-ce qui fait que je peux dialoguer avec Platon? C'est qu'il a écrit sa pensée et que cette pensée étant écrite je peux la réactualiser, comme dit Husserl, la réactiver totalement sous une forme de nouvelle intuition platonicienne. Et c'est aussi ça, d'ailleurs, qui donne une vision de la Grèce très claire, très limpide. On a l'impression que les Grecs, tout à coup, c'est la lumière qui tombe, c'est ce qu'on appelle le miracle grec. En fait, c'est parce que l'écriture grecque nous donne une vision très précise de la manière dont ils vivaient. C'est un effet lié complètement à l'alphabet. Cette vision de la Grèce... Alors, on pourra me dire aussi, oui, mais il y a le Parthénon, bien sûr. C'est aussi vrai. Mais le Parthénon, il est assez fondamentalement lié, à mon avis, à l'apparition de l'écriture. Alors, c'est ce que j'appelle des mnémotechniques, ce qui apparaît là. Et ces mnémotechniques, elles vont permettre de retenir sous une forme matérielle le temps, et donc de conserver le passé sous une forme réaccessible dans des conditions nouvelles. Ce que je veux dire en disant ça, c'est que étudier les conditions de fonctionnement de la conscience collective et individuelle, c'est fondamentalement conditionné par l'étude des techniques qui permettent à la conscience d'accéder à son propre passé. Ce que j'appelle ici son propre passé, c'est pas simplement le passé que j'ai vécu moi-même, par exemple Bernard Stiegler, depuis ma naissance il y a 51 ans. C'est également tout le passé dont je suis en train de vous parler, de Platon par exemple, des Égyptiens, des Mésopotamiens, et même du Néandertalien et de l'Australopithèque. Qu'est-ce qui me permet de dire que c'est mon passé? C'est que tout ce passé-là, à travers les traces accumulées, je l'ai réactualisé, je l'ai hérité sous la forme de ce qu'on appelle une culture. Ce qui fait la culture, c'est que mon passé n'est pas seulement mon passé, mais qu'il est le passé de mes ancêtres qui m'ont transmis un savoir. Ce qui rend possible cette transmission de savoir, c'est la couche mnémotechnique de ce que j'appelais tout à l'heure les trois formes de mémoire du vivant humain. Autrement dit, pour revenir aux problématiques de la philosophie grecque, à la différence de Platon, je crois que la technique est constitutive du savoir humain. Ça ne veut pas dire que le savoir humain se réduit à ce qui est gardé dans les dimensions techniques. Car le savoir humain, c'est essentiellement le désir humain. Ce qui fait qu'un homme est un homme savant ou sachant, c'est qu'il est un homme désirant, c'est-à-dire fantasmant, imaginant. C'est précisément d'ailleurs ce que dit Platon dans Le Banquet. Ce magnifique texte de Platon, qui est pour moi le plus beau texte de Platon, Le Banquet, pose que le savoir est sous le signe d'Eros, fondamentalement, qu'on ne peut savoir que si on a le désir de savoir, et que donc la condition du savoir, c'est le désir. Mais moi j'ajoute, la condition du désir, c'est la prothèse, comme Freud l'a très bien montré en fait, tout en n'ayant pas pensé la technicité d'ailleurs du désir, bizarrement. Parce qu'à la fois Freud montre que ce qui constitue le désir, c'est le fétiche, et le fétiche, c'est essentiellement une prothèse. Et en même temps, malheureusement, mais ça j'ai pas le temps de le développer, il ne pense pas à proprement parler la technique dans la théorie psychanalytique. Alors ça va conduire à une évolution très importante au XIXe siècle. La Grèce est marquée à mes yeux de manière fondamentale, et à travers la Grèce, tout l'Occident, par la technologie alphabétique que j'appelle la synthèse littérale de la mémoire. Mais à partir du XIXe siècle, c'est-à-dire avec la révolution industrielle, vont apparaître de nouvelles techniques de conservation de la mémoire, de nouvelles mnémotechniques orthothétiques, et en l'occurrence, et en particulier, d'abord, la photographie et la phonographie.
Pourquoi orthothétiques ?
Elles sont orthothétiques parce que, comme l'alphabet, elles permettent de conserver, de retransmettre de manière exacte, en l'ayant fixé sur un support matériel, un élément du passé. Mais en plus de l'alphabet, il ne conserve pas que la signification, par exemple, d'un énoncé verbal, mais également ce que Barthes appelait le grain de la voix, par exemple. En ce moment, nous enregistrons, cette émission est en temps différé, je parle dans un micro, et sur ce micro, via ce micro, ma voix va se déposer sous la forme de modification. La légère modification électromagnétique de la matière, de la bande magnétique, va garder l'empreinte de ma voix. Si je me réécoute dans une semaine, ou si on me réécoute dans 100 ans, sait-on jamais, on n'aura pas l'impression d'entendre une image de ma voix. On aura l'impression d'entendre ma voix. Si on écoute Sarah Bernard, dont la voix a été reconstituée avec Radio France et l'INA, et qu'on trouve aujourd'hui dans les rayons des magasins de la grande distribution, dire Phèdre, on n'a pas l'impression d'entendre une image de la voix de Sarah Bernard, on entend la voix de Sarah Bernard. C'est Sarah Bernard en tant que telle qu'on entend. Alors ça veut dire quoi? Ça signifie qu'au XIXe siècle, de nouvelles orthothèses sont capables de reconstituer des couches de passé beaucoup plus vaste que le seul domaine des significations verbales. En particulier, d'une façon générale, le visible et l'audible, sous toutes leurs formes. La voix, la musique, le théâtre, etc., la poésie, et puis d'abord la photo, et ensuite la photo animée, le cinéma. Ces capacités d'enregistrement vont créer une situation tout à fait nouvelle quant à la communauté politique au sein de laquelle elles vont se développer. Pour pouvoir comprendre les effets du développement de ces techniques analogiques puis numériques, parce que le numérique est une poursuite de ce processus, je me suis beaucoup penché sur la théorie husserlienne de ce que les phénoménologues appellent l'objet temporel. Car finalement, les enregistrements, qu'ils soient phonographiques ou cinématographiques, ils permettent de construire ce que on peut appeler des objets temporels. Un objet temporel, c'est un objet d'un type particulier qui est constitué par son écoulement. C'est-à-dire que, à la différence d'un objet physique ordinaire, la condition de son apparition à ma conscience, c'est sa disparition. Il disparaît à mesure qu'il m'apparaît. Par exemple, les auditeurs qui vont écouter cette émission sur France Culture ne peuvent m'entendre qu'en laissant passer ma voix. Ils ne peuvent pas s'arrêter sur ce que je suis en train de dire. À la différence d'un livre. S'ils me lisaient, par exemple, sous la forme d'un texte, ils pourraient s'arrêter. Ils pourraient dire, tiens, ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire? Là, ils ne peuvent pas s'arrêter.
Ils peuvent juste éteindre le poste.
Ils peuvent juste éteindre le poste. Ou alors enregistrer. la chose et ensuite la transcrire. Mais ils peuvent pas faire un arrêt sur image, si je puis dire. Ils peuvent pas s'arrêter sur mon propos, parce que mon propos est structurellement temporel. Il s'écoule. Une mélodie, c'est pareil. Une mélodie, c'est un objet musical dans la mesure où cet objet s'écoule. Husserl a étudié ces objets parce qu'il a compris une chose extrêmement importante, c'est que ces objets ont une structure d'écoulement qui est parfaitement homothétique, homogène avec l'écoulement de ma propre conscience. Nos consciences s'écoulent. Ça, c'est la donnée primaire dont parle Bergson. Ma conscience est essentiellement durée et donc écoulement. Il se trouve qu'il y a des objets qui eux-mêmes ont une structure d'écoulement. Et l'écoulement de ces objets, lorsque j'en ai conscience, coïncide totalement, comme dit Husserl, point par point, avec l'écoulement de ma propre conscience. C'est ce qui fait dire à Husserl que si j'étudie ces objets temporels et que j'en comprends la structure interne, je vais apprendre énormément de choses sur la structure interne de la conscience elle-même. Alors, qu'est-ce que découvre Husserl dans l'étude de ces objets temporels ? Il découvre ce qu'il appelle le concept de rétention primaire. Imaginez que vous êtes en train d'écouter une mélodie. Qu'est-ce que c'est qu'une mélodie ? C'est une succession de notes qui ont des hauteurs et des durées. Et cette succession de notes, elle n'est une succession de notes que dans la mesure où les notes sont constituées par la succession. Ce que je veux dire, c'est que un la, si vous le prenez en tant que tel, isolément, en dehors de tout contexte musical, ça n'est plus un la. C'est une vibration de fréquence, c'est une fréquence sonore, en l'occurrence, je me souviens plus combien, 400 et quelques hertz. Et c'est la tonalité du téléphone, mais c'est pas un la. Ce qui fait qu'un la est un la, c'est qu'il est en relation avec d'autres fréquences sonores, de manière stable, relation qu'on appelle un intervalle, ou qu'on appelle aussi, à l'époque de Pythagore, un logos, c'est-à-dire un rapport. Husserl dit, dans la mélodie et d'une façon générale dans l'objet temporel, ce qui constitue l'objet, et qui est présent à mon oreille au moment où je l'écoute, est constitué dans sa présence par le fait qu'il retient en lui l'objet qui le précède, l'objet, l'élément qui le précède, c'est-à-dire que le la, par exemple, retient un si bémol qui le précède, qui lui-même retient une autre note qui le précède et avec lequel il va se constituer, par exemple, un arpège. Et c'est l'unité de rapport entre ces éléments qui va constituer la mélodicité en tant que telle. Ça veut donc dire que la note est constituée comme note dans la mesure où elle retient avant elle une note qui la précède. Et ça veut donc dire que le présent de l'objet temporel est habité par un passé originaire dans la perception même de l'objet temporel. C'est ce que Husserl appelle une rétention primaire. On peut montrer d'ailleurs au cinéma qu'il se passe la même chose, par exemple avec l'effet Kouletchov. Kouletchov, c'est un réalisateur russe qui un jour a fait une expérience. On conteste que ce soit lui d'ailleurs, mais peu importe, l'expérience est là. Il a tourné un plan avec un acteur russe à qui il a demandé d'adopter une attitude, un visage, avec une expression un peu indéterminée, un peu comme la Joconde, si vous voulez. Et ce plan, il l'a monté dans deux séquences différentes, le même plan. Dans une première séquence, il l'a fait précéder par un plan avec une scène très triste, et succédé par un plan avec une autre scène très triste, en l'occurrence une scène très macabre, puis une scène triste, de gens qui réagissent au caractère macabre. Et dans la deuxième séquence, il a remonté le même plan, mais avec une scène très drôle, et des gens qui ensuite rient. Et il a présenté ces deux séquences à un public, il a demandé aux gens de dire quelle est l'attitude de l'acteur dans la première séquence, et quelle est son attitude dans la deuxième séquence. Et les gens ont tous dit, il va pleurer dans la première séquence, et dans la deuxième, il va rire. Or c'est la même prise, c'est la même photo, pas le même plan. Ça veut donc dire qu'en fait, le plan qui est au milieu est constitué dans son efficacité symbolique, si on peut dire, mais aussi son efficacité temporelle, par le fait qu'il retient primairement en lui le souvenir immédiat du plan qu'il précède et qu'il protient, comme dit Husserl, c'est ce qu'on appelle la protension, c'est-à-dire qu'il crée une attente sur le plan suivant et c'est ce qui va faire l'unité de la séquence. Alors, cette rétention primaire, Husserl nous dit à juste titre qu'il faut la distinguer de la rétention secondaire. La rétention secondaire étant ce qu'on appelle habituellement le souvenir. Cette rétention secondaire elle est tout à fait d'un autre type puisqu'elle appartient au passé, à proprement parler. Alors que la rétention primaire appartient au présent. C'est ce que Husserl appelle à un moment donné un passé-présent. La rétention secondaire relève de l'imagination, en tant qu'elle appartient au passé. Tandis que la rétention primaire relève de la perception, en tant qu'elle appartient au présent. Alors, pour des raisons que j'ai pas beaucoup le temps d'expliquer ici, Husserl va avoir tendance à poser qu'il n'y a aucune relation entre la rétention primaire et la rétention secondaire. En fait, c'est parce qu'il a un débat avec Brentano. Brentano a tendance à confondre la rétention primaire et la rétention secondaire, et donc, Brentano dit, l'indice de passé qui est attribué à la note qui précède la note que j'entends en ce moment sous une forme de rétention primaire est produit par l'imagination. Et Husserl répond, non, si c'était produit par l'imagination, ça voudrait dire que le temps n'est qu'un produit de l'imagination, c'est-à-dire que le temps n'existe pas. Donc ça serait une contradiction radicale. Autrement dit, c'est bien une production de la perception. Et il a raison, bien évidemment, de dire ça. Mais le problème, c'est que ça va le conduire à opposer la rétention primaire et la rétention secondaire. Or, à mon avis, la rétention primaire et la rétention secondaire ne s'opposent pas. Au contraire, elles composent en permanence. Ce que je veux dire en disant ça, c'est que si j'écoute la même mélodie deux fois de suite ou deux jours de suite, ou à deux reprises à un intervalle donné, et même, mettons même que je l'écoute 10 fois de suite, qu'est-ce qui va se produire ? Surtout si la mélodie est bonne et si je suis mélomane. Il va se produire que plus j'écoute la mélodie et plus je vais trouver des différences dans les différentes écoutes de la mélodie. C'est ce que Husserl appellerait les différents phénomènes produits par le même objet. La mélodie, c'est l'objet, c'est toujours le même objet, mais à chaque fois, il y a un phénomène différent. Et si la musique est bonne, c'est pour ça que, par exemple, Mozart, je peux le réécouter 50 fois de suite, je vais chaque fois entendre des choses nouvelles. Ça veut donc dire que les rétentions primaires que ma conscience va produire vont changer à chaque audition. Ça veut donc dire qu'en fait, ma conscience est extrêmement active dans l'écoute de la mélodie et qu'elle sélectionne dans les rétentions primaires. C'est la raison pour laquelle aussi, si par exemple, on demandait, ce que je fais régulièrement quand je fais des cours à mes étudiants, de dire... Quel est le sens de ce que je dis depuis maintenant 20 minutes? On demandait la chose à 10 personnes différentes, ces 10 personnes trouveraient 10 sens différents. Ça ne veut pas dire qu'elles ont tort. Ça veut dire que moi, la 11e personne, je dirais non, il y a un autre sens, ça ne veut pas dire que j'aurais raison. Ça veut simplement dire que chacun d'entre nous avons sélectionné primairement un certain type de rétention. Et en fait, la différence entre nos rétentions primaires, à chaque fois, est très liée à nos rétentions secondaires, c'est-à-dire au savoir que nous avons déjà avant d'écouter l'énoncé. Alors ça... c'est quelque chose qui devient évident lorsqu'apparaît le phonographe. Ça devient évident lorsqu'apparaît le phonographe, parce que lorsqu'apparaît le phonographe, il se produit une chose extraordinaire, qui était inconcevable auparavant, à savoir qu'un objet temporel identique peut être produit 2 fois de suite par une machine. Avant, c'était inconcevable. Avant, ce qui était concevable, c'était qu'un orchestre joue 2 fois de suite le même morceau, mais les deux exécutions étaient chaque fois différentes. Là, avec le phonographe, vous pouvez répéter 2 fois de suite le même objet temporel. Et là, vous constatez que, effectivement, le même objet se produisant plusieurs fois, vous avez des phénomènes qui sont différents à chaque fois. Ce phonographe, c'est ce que j'appelle une rétention tertiaire. Et en fait, cette rétention tertiaire, il y en a de nature phonographique, il y en a de nature alphabétique, il y en a de nature épiphylogénétique en général, c'est-à-dire les objets techniques en tant que tels, tous les objets techniques sont des rétentions tertiaires.
Des enregistrements.
Des enregistrements du passé. Mais ces enregistrements du passé surdéterminent les relations que je fais entre les rétentions primaires et les rétentions secondaires. C'est la raison pour laquelle, au XXe siècle, l'industrie va s'emparer des rétentions tertiaires pour en faire ce qu'on appelle l'industrie des industries culturelles. Pourquoi ? Parce qu'à travers le cinéma, la musique, la radio et la télévision, du fait qu'un objet temporel, lorsqu'il s'écoule, coïncide avec le temps d'écoulement de la conscience à laquelle il s'adresse, l'industrie va pouvoir contrôler l'écoulement des temps de conscience. Et par exemple, faire adopter des comportements. Par exemple, consommer des chewing-gums de telle marque, ou des bas de telle marque. Je vous chante ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et immédiatement, vous avez une marque, dont je ne donnerai pas le nom, puisqu'on n'a pas le droit de le faire, mais j'ai pas besoin de le faire. Du moment que j'ai chanté, vous savez déjà de quoi je parle. Ça, c'est l'utilisation par les industries culturelles de la vertu des objets temporels, mais ça produit ce que j'appelle une crise écologique de l'esprit. Parce qu'à partir du moment où l'industrie impose ses critères exclusivement au phénomène rétentionnel qui caractérise la conscience, alors la conscience entre dans une espèce de crise écologique.